À Bukavu, sur 95,3.
Notez que la population des loups Rwindja en territoire de Mwenga, au sud Kivu, se plaint de la condition misérable dans laquelle elle vit, à côté des riches gisements que renferme la concession des Twangiza. Ces populations se disent spoliées de ces ressources minières dont elles vivaient à l'époque grâce à l'exploitation artisanale de l'or. Depuis lors, les mines des Twangiza sont devenues une source de conflits entre, d'une part, la population locale et les sociétés multinationales qui cherchent à se frayer le monopole dans l'exploitation de ces riches gisements. Nous allons d'abord suivre le reportage que va nous proposer Michel Tchirimouane.
Selon les témoignages, la population de cette contrée du Sud Kivu est en train de vivre une frustration quotidienne due à cette situation. Le problème, c'est la conscience de vivre dans cet Eldorado constitué par les mines des Twangiza où s'exploitent l'or, les platines et autres métaux précieux. Une telle attitude, selon les habitants, s'explique par ce paradoxe de pauvreté qui frappe la population villageoise des Rwindja, dont les sites attirent plutôt les convoitises des capitaux étrangers. La non-jouissance des matières jadis à leur portée est un sujet de révolte pour ceux qui y réfléchissent. Nous avons rencontré un jeune universitaire originaire de là, Raymond Tono Simo Africa, explique les attentes non assouvies de la population.
La population n'a plus accès total à cette terre. La fois passée, unique source de sa vie. Donc, pour le moment, la population étant exclue, se demande maintenant comment survivre. C'est bien avec la présence de cette société, on espérait bien vivre. On espérait que tout allait changer. Et donc, la population s'attendait beaucoup plus à la construction de routes, à la construction de barrages électriques, des hôpitaux, des écoles, mais aussi la population croyait que la majeure partie de la population allait être embauchée et les gens pourraient avoir un salaire décent et donc on allait vivre une forte circulation de la monnaie congolaise à l'Ouindia, chose qui n'est pas effective au moment où nous parlons.
La situation est surtout mal ressentie au sein des leaders et des autorités coutumières qui devaient canaliser les revendications de la population. Aujourd'hui, le premier conflit apparent qui fait surface à l'Ouindia, c'est la déstabilisation du pouvoir coutumier. Après la mort du moine Philemon Mukuba en Europe, son jeune frère Justin Mukuba occupe la place, mais pas pour longtemps car la reine-mère plaidera pour son fils encore très jeune, mais qui finit par être intronisé malgré son âge. La mère du jeune héritier prend de la place et occupe la régence. Mais élu député lors des dernières élections, Justin Mukuba pense redorer son blason, mais sera disqualifié par la Cour suprême de justice, une situation qu'il dit ne pas comprendre jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, la population se sent mal représentée, elle qui espérait investir tout dans ses députés nationaux. Pour les députés déçus, au milieu de la misère qui l'accable, cette population de Rwindja n'a pas qui plaider pour elle.
La population elle-même ne gagne absolument rien parce qu'elle est prise en otage, mais elle ne gagne absolument rien. Mais tous les biens sont exportés vers des sièges étrangers avec des hélicoptères que vous voyez sur les données là-bas. C'est-à-dire que les autorités dont le poste sont remplis, que finissent et n'ont rien à s'en foutre dans les problèmes de Rwindja et des pauvres citoyens. Alors, c'est là qu'ils pouvaient défendre la cause de cette population. On a trouvé qu'ils étaient dans le clan. Qui va protéger cette population? Qui va réclamer le respect du code minier au bénéfice de la population? Ça, on s'est dit responsable quelque part. Mais aucun intérêt de cette population ne vous intéresse.
Voilà pourquoi ici on crie à la trahison de la cause de la population abandonnée elle-même. La situation reste préoccupante sans personne pour lever la voix. Justin Mukuba et les autres voix qui disent ne pas avoir la force de supporter le spectacle de la misère crient à la complicité et à la corruption. L'exploitation de matières précieuses se fait à la barbe de la population qui n'en tire pas profit. Un ouvrier qui travaille plus de 20 heures, m'a-t-on dit, ne touche que $50 par mois. Justin Mukuba explique.
Mais maintenant, après la guerre, il y a ici, il y a les intramains, il y a les maïmaïs qui ont un peu ravagé les produits de l'élevage. Alors, cette population, ce qui nous est fait, c'est l'exploitation artisanale. C'est-à-dire, les jeunes, ils vont exploiter quelqu'un, ils font ceci, cela, ils gagnent autant. Ils vont la tête, peut-être une chèvre, le commence par là. Mais maintenant, ils n'ont plus accès à tenir aucune fonction de responsabilité, mais attribuée parler à un autochtone de l'Inde ou un seul, c'est-à-dire celui que les ouvriers, avec $1 par jour. Maintenant, on vient, on attaque même le champ de pauvres populations, on les exploite contre le gré de pauvres populations. Là où les populations cultivées, on vient, all in, c'est ce que tu les veux ou pas. Ok, on occupe ce champ, on exploite là-bas, et on te donne $1, ce que tu les veux ou pas, ou rien, parce que tu n'as rien, tu n'as nulle part à aller.
La conséquence ne s'est pas fait attendre. Un fossé se creuse entre la population et le pouvoir local, d'où la méfiance et le manque de confiance qui s'implantent, comme une autre forme de la frustration. Le jeune Raymond Mafrika le constate et renchérit.
Il y a une distance qui s'est créée entre la population et le gouvernement local, je peux dire la population et les autorités locales. Et donc, la population a difficile à se prononcer devant les autorités locales. On peut se demander d'où est venue cette distance. Moi, personnellement, en tant que libre penseur, je trouvais que cette distance est venue de la mégestion. Puisque vous allez voir que les gens qui étaient considérés, j'ai dit, comme appartenant ou comme des suiveurs de ce député national d'ici, Justin Mukuba, par la suite étaient maltraités ou non considéré par les autorités locales, après que Justin soit élu comme député national. On n'a plus le temps ou le courage d'aller donner nos désidératas, d'aller nous prononcer devant les autorités locales.
Enfin, la population se retrouve sans voie de sortie. Les revendications ont du mal à être canalisées devant la puissance de l'argent des multinationales implantées. Les leaders sont éloignés, mais quelquefois, la population villageoise ose à peine lever le doigt pour réclamer son droit. Notre libre penseur Raymond Tonossi déplore cette léthargie devant l'exploitation.
C'est une population aussi, je veux dire, qui n'est pas violente. La population arrive au moins quelquefois à dire non, à rédiger des mémos, à adresser des mémos à des autorités ici et là, dire non à cette exploitation inhumaine de la société, cette exploitation du sol et des hommes de l'Ouindja sans tenir compte des intérêts de la population. C'est au fait ça.
La situation de la population de l'Ouindja constitue tout un symbole, celui d'un candide chassé ou éloigné de son Eldorado. De Bukavu, Michel Simami pour Okapi Action.
Portrait, entretien, reportage. Avec tout ce qui fait l'actualité culturelle et musicale au pays comme à l'étranger, la culture dans tous ses états, c'est un rendez-vous au Capi Métissage. Chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa.
Merci Charlotte Michel Chirimani de nous avoir présenté ce reportage. Nous avons François Elika, assistant à l'IFASIC et analyste politique dans ce studio. François Elika, rebonjour.
Bonjour.
Alors naturellement, l'inégalité sociale appelle à la violence, donc l'attitude de la population de Minga que nous venons de suivre au travers de ce reportage, c'est justifié.
Elle se justifie, il faut dire qu'elle n'est pas unique, beaucoup de populations se retrouvent dans des situations similaires et il faut craindre que de ces sentiments de frustration, on arrive à une extériorisation de violence qui pourrait possiblement conduire à des situations de recours à des armes pour régler des comptes. Donc, pour moi, ça me rappelle ou ça m'inspire le fait que lorsque vous êtes en face des ressources naturelles, qui doivent être accessibles à tout le monde et que les uns y accèdent, les autres pas, ça crée un certain nombre de un sentiment de frustration et d'exclusion, de sorte que l'on se dit pourquoi finalement on se retrouve à cet endroit et pourquoi nous on n'a pas droit, mais parce que nous avons droit et que les moyens utilisés jusqu'à présent n'ont pas porté de fruits. Bon, est-ce qu'on ne peut pas recourir à des moyens les plus extrêmes, notamment la violence, pour que nous aussi nous puissions faciliter notre accès à ces ressources? Et là, nous sortons d'une situation normale, nous entrons dans une situation anormale parce que, en réalité, il manque une vision concertée, une vision communautaire de gestion ou de l'utilisation de ressources qui, en principe, devraient profiter à tout le monde.
Et mais en principe, dans bien des cas, la violence qui découle de ce sentiment de frustration, disons, appelle encore d'autres violences, parce que les puissants se sentiront toujours forts et ils continueront toujours à mater les faibles.
Oui, la particularité de la violence, c'est qu'elle ne permet pas de résoudre le problème dans une approche durable. La violence est un sentiment. Elle découle d'abord de notre état d'impuissance. nous réalisons que face à celui qui est plus puissant que nous, le dialogue n'a pas payé et nous recourons à la violence. Mais cette violence relance en fait un cycle perpétuel de violence qui n'épargne personne. Aussi bien celui à qui nous avions fait le reproche qui nous empêchait d'accéder aux ressources et nous-mêmes qui avons recouru à la violence, nous nous retrouvons nous tous finalement victimes d'une plus grande violence. C'est ce qui arrive. C'est pourquoi il est important à des situations pareilles qu'on ne recourt pas à la violence, mais plutôt qu'on recourt à des méthodes de concertation pour arriver finalement à maîtriser, à proposer des mécanismes d'accès qui facilitent l'accès à tout le monde, de sorte que chacun de nous puisse jouir des avantages dus à la présence de ressources naturelles qui se retrouvent ou qui se retrouvent dans un espace territorial donné. Alors, vous allez voir, par exemple, que l'histoire de la République démocratique du Congo est une histoire fondée essentiellement sur des situations de perpétuation de violence dues à la répartition inégale de ressources. Que ce soit des ressources naturelles ou des ressources structurelles. Lorsque vous êtes, par exemple, prenons le cas de Bandundu, lorsque vous observez les territoires, les districts de Kwilu, vous vous rendez compte que 75% d'écoles se trouvent implantées dans le district de Kwilu. Alors que l'ensemble des provinces n'en a qu'au moins. Les autres districts n'en ont qu'au moins. Donc vous avez le tout concentré à ce niveau-là, de sorte que structurellement déjà, ceux qui sont dans cet espace partent favoris par rapport à d'autres. Et si on observe une inégalité réelle, criante, entre le Kwango et le Kwilu, ça pose de problèmes en termes de perception de l'autre. Les uns considèrent qu'ils sont avantagés, les autres sont désavantagés par l'histoire, et naît alors un sentiment d'exclusion parce qu'on croit qu'on est marginalisé. Et le comportement devient un comportement de violence. Celui qui possède plus croit que c'est un avantage qu'on lui offre l'histoire, et ça pose donc des problèmes. De sorte que l'approche ou la logique qui devrait en principe guider au comportement individuel comme collectif, c'est d'arriver à développer une vision de solidarité. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous observez des entreprises comme la Miba à Mbujimayi ou encore la Gécamine à Lubumbashi, les habitants de Lubumbashi ont tendance à considérer la Gécamine comme une entreprise appartenant, qui leur appartient, de la même façon que les gens de Balouba de Mbujimayi. Alors qu'en réalité, ce sont des entreprises qui sont nées du fait de la solidarité de plusieurs ethnies, de plusieurs provinces. Vous n'avez qu'à observer que le fait que pour que les matériels qui ont été à la base de la construction de l'usine arrivent en Mbujimayi, ces matériels sont passés par plusieurs provinces. Donc, l'utilisation de l'espace, de la terre de ces provinces a eu des répercussions sur les conditions de vie de ces gens. Il fallait créer des routes et ainsi de suite pour arriver ou acheminer ces matériels. Et vous allez constater aussi qu'il y a plusieurs groupes ethniques qui ne sont pas là, mais qui ont été impliqués, qui se sont impliqués dans la construction de ces usines. De sorte qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces entreprises appartiennent uniquement aux populations de l'espace où se trouvent implantées ces entreprises. C'est là le principe de solidarité qui est important et qui doit faire en sorte que lorsque nous sommes en face de ces usines, lorsque nous sommes en face de ces entreprises, nous devons les considérer comme des entreprises qui génèrent des profits profitant à tout le monde. Vous allez le constater en termes de province d'ailleurs, que les provinces qui n'ont pas suffisamment de ressources doivent bénéficier de l'apport, c'est ça le principe de solidarité, de l'apport d'autres provinces un peu plus nanties. Pourquoi? Parce que le droit à la sécurité alimentaire, le droit d'accès aux avantages de la société est un droit reconnu à tout le monde.
Mais professeur Elika, on ne peut pas avoir accès au même niveau, au même diapason, à la vie, aux avantages sociaux.
Les avantages sociaux, ce sont en fait des avantages qui sont définis en termes de politique. Lorsque l'État se met à concevoir ses politiques, il doit offrir les chances égales à tout le monde. Évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes aptitudes pour capitaliser ces avantages.
Numériquement parlant, on ne peut pas être au même niveau.
Le problème, ce n'est pas d'être au même niveau. Il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres. Mais il faut éviter d'atteindre un seuil intolérable de pauvreté, de sorte que à ce niveau-là, on ne puisse plus se sentir humain et que l'on se pose la question pourquoi on vit.
Alors, quels sont les phénomènes qui poussent une poignée de riches entrepreneurs à s'enrichir alors que la plus grande majorité de la population congolaise vit dans la pauvreté, pour prendre les derniers cas de Bukavu, là nous sommes à Mwinga.
Vous avez des gens qui profitent de mauvaises politiques et de mauvaises législations qui existent dans la société, qui profitent des faiblesses de ces législations ou encore des faiblesses du gouvernement pour arriver à privatiser les richesses qui, en principe, devraient profiter à tout le monde. Et donc, ces entrepreneurs développent psychologiquement l'idée que parce que on est en complicité avec le pouvoir public, parce que le pouvoir public leur offre un certain nombre d'avantages, ils peuvent se faire de l'argent en excluant la grande majorité de la population. C'est ce qu'on observe partout. Vous n'avez qu'à observer. Partout où on exploite le diamant, toutes les populations environnantes vivent dans une médiocrité, dans une situation de précarité telle qu'on se pose la question, pourquoi alors, à quoi ça sert ce diamant? Quand vous êtes à Chicapa, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de ravins, les services sociaux sont inaccessibles, vous avez des gens qui, en fait, ont même honte de dire que nous vivons, nous sommes nés dans cette contrée où le diamant produit suffisamment de richesses.
Mais il y a un psychologue qui a réfléchi dans ce sens en disant que une telle situation crée, certes, un sentiment de frustration au niveau de la population, mais ce sentiment de frustration peut constituer une bombe à retardement.
Bien entendu, ça peut constituer une bombe à retardement parce que le sentiment, l'accumulation de toutes ces frustrations vous conduisant à considérer que vous êtes marginalisé, vous n'avez pas votre place dans la société, vous donne la possibilité de développer des sentiments de rancœur. Et là, vous êtes à la merci de toutes les manipulations de la part de tous ces leaders qui recherchent un repositionnement et qui vont vous dire, mais écoutez, les autres sont venus s'enrichir chez vous, qu'est-ce que vous attendez pour les tuer? C'est comme ça qu'on assiste à des situations de banditisme ou de cas des attaques à main armée contre les ressortissants de tel ou tel autre groupe, parce qu'on s'est dit, si on doit les violenter, on doit utiliser les armes contre ces gens, c'est une façon pour nous de leur dire qu'ils sont injustes, et ainsi, en recourant à la violence, nous allons nous-mêmes créer de nouvelles conditions de justice, ce qui est malheureusement faux aussi, parce que cela n'aboutit pas à une violence, n'aboutit pas à une amélioration durable des conditions de vie et même à une pacification de rapports.
Alors l'implication des autorités coutumières, des pouvoirs économiques, des syndicats professionnels, des élus locaux et professionnels dans la gestion des ressources naturelles pourrait-elle prévenir ces conflits?
Bien entendu, ça peut prévenir, mais à une condition que cette implication soit une implication qui ne vise pas un repositionnement politique. Il faut que nos syndicats arrivent très fortement à pousser, à faire pression sur les gouvernants pour que un certain nombre de contrats soient révisités, soient revus dans le sens de l'implication de conditions, hein, de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, et cela a des répercussions sur leurs familles respectives. Il faut que nous tous, citoyens, nous puissions nous mobiliser à travers des marches, à travers des pétitions pour amener les autorités à comprendre que en mettant en place des législations qui profitent à tout le monde et qui minimisent ou réduisent la possibilité de privatisation des richesses, nous arrivons à créer des conditions de paix parce que chacun de nous va accéder à ses ressources et chacun de nous tirera profit de ses ressources.
Voilà, suivant la conclusion que nous propose Marcel Tankou.
Au Congo, les ressources naturelles continuent à faire l'objet de pillages et d'exploitations illégales. Des organisations de la société civile accuse certains chefs de guerre congolais et des opérateurs économiques d'être responsables du pillage de ces richesses. Cette situation nous donne le sentiment que nous, citoyens congolais, ne méritons pas de bénéficier des richesses de notre propre pays, nous condamnant à vivre dans la pauvreté et nous plongeant dans un avenir sans perspective. Pendant ce temps-là, certains continuent à s'enrichir. Face à de telles inégalités sociales, nous nous sentons frustrés et certains d'entre nous sont même prêts à user de la violence pour tenter de récupérer un peu de richesse. Mais nous, citoyens congolais, nous ne pouvons plus accepter en silence de ne pas bénéficier de l'exploitation et de la redistribution égalitaire de nos richesses. Nous devons agir pour un Congo plus juste et plus social. Il est vrai qu'il n'est pas facile de dénoncer ces inégalités. Souvent, nous nous demandons, dois-je dénoncer? Quels sont les risques? Ces risques sont-ils conséquents pour moi et ma famille? Ces interrogations constituent une prise de conscience de notre part face aux injustices sociales. Pour trouver des réponses à nos questions, il est important de nous rassembler dans un cadre d'échange comme la famille ou les mutuelles, les syndicats ou l'Église, par exemple. Ensemble, nous pouvons mieux évaluer la situation et nous mettre d'accord sur des actions pacifiques à entreprendre sans risquer notre vie. Ainsi, nous sommes comme des alliés et avons plus de force pour nous faire entendre auprès des décideurs économiques et politiques afin que la gestion des ressources naturelles commence par la base et bénéficie à nous tous, quelles que soient nos origines géographiques ou culturelles. Parmi les manifestations pacifiques, nous pouvons faire la grève pour empêcher des camions de sortir de la mine. Enfin, plus nous dénonçons toutes ces injustices, et moins nous prenons de risques. Aussi, nous empêchons la situation de se dégrader, non seulement pour nous, mais aussi pour nos familles et toutes les communautés.
Voilà, François Elika, en croire ce que vous dites, on peut conclure que la question de l'inégalité sociale peut être résolue par l'approche du dialogue.
Par l'approche du dialogue, mais au-delà aussi par l'implication des mécanismes institutionnels, notamment l'amélioration de lois, l'implication de la justice, parce que l'inégalité de répartition de ressources procède d'une injustice. Il faut impliquer une approche concertée, mais il faut améliorer les lois, les législations qui existent, et donc pousser, faire pression sur le gouvernement de sorte que de bonnes politiques soient prises pour corriger ces disparités. Vous avez, par exemple, les mécanismes de péréquation au niveau de la loi sur la décentralisation qui permet que des provinces moins pourvues en ressources bénéficient de l'apport des autres provinces.
Dans les cas contraires, ça sera ainsi que les gens.
Tout à fait.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à notre émission d'Ikangaka.
Tout à fait.
Merci à tous ceux qui étaient des nôtres et qui nous ont accompagnés depuis le matin.
Depuis 9h, hein,
depuis 9h. Donc, on prend rendez-vous avec eux demain.
Demain, et on ne manque pas de remercier tous ceux qui nous ont assistés, notamment pour la Mouiki. Fatima Poukou, sans oublier Marcel Concours, Marcel Gombo, qui était la coordination de cette émission. Allez, le prochain rendez-vous avec Okapi Action, c'est demain. Hein.